Bonjour à tous. On n'est pas bien là? Alors les collègues m'ont demandé de parler de la vision de l'EPI, mais en même temps ils m'ont demandé de parler de l'identité. Vous savez qu'on est dans une série qui s'appelle l'identité, qui nous sommes. Et donc on a fait un mix des deux. Je vais vous parler de l'identité de l'EPI et je vais vous parler également de la vision. Avant de démarrer mon message, d'abord, je vous salue vraiment très fraternellement les uns et les autres, et bienvenue à chacun, à chacune. Et on voudrait saluer de tout cœur ceux qui nous écoutent et ceux qui nous suivent sur Internet. Ils sont de plus en plus nombreux, ils sont à l'écoute et à l'affût, notamment des messages. Alors on les salue, et en particulier les gens qui sont venus la semaine dernière de Normandie, je ne dis pas leur nom, ils se reconnaîtront. En Normandie et en francophonie, on nous écoute, on nous regarde, et on veut bénir tous ceux et toutes celles qui sont à l'écoute. Est-ce qu'on peut leur dire un chaleureux coucou, une salutation, faire un peu de bruit? Voilà, que Dieu bénisse tout ce rayonnement et ce témoignage de l'EPI. Alors nous abordons aujourd'hui un deuxième volet de notre série sur l'identité. La semaine dernière, le pasteur Raymond Pierre nous a parlé de notre identité personnelle. Il nous a dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, et que le péché avait sali et déformé cette image en nous. Il nous a parlé de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu pour restaurer ce qui avait été abîmé en nous, nous donner une nouvelle identité et faire de nous une nouvelle personne. Et on pensait notamment à ce texte de 2 Corinthiens 5:17 qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature », même littéralement une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et de jour en jour, elles continuent à se renouveler, et c'est une bénédiction. Alors, je vous recommande notamment cette étude complète sur le sujet qui a été réalisée par le docteur Neil Anderson avec un livre qui s'appelle « Nouvelle identité pour une nouvelle vie ». Disponible dans toutes les bonnes librairies, et notamment ici, à l'EPI, ou à la CLC. Le fait de savoir qui je suis en Christ influence ma façon de vivre en tant que chrétien. Alors on va s'intéresser aujourd'hui à notre identité collective. La semaine dernière, c'était l'identité personnelle, et aujourd'hui on va parler de l'identité collective. C'est-à-dire qui nous sommes en tant que communauté. L'identité personnelle, c'est qui je suis en tant que chrétien, et l'identité collective, c'est qui nous sommes en tant qu'Église. De même que j'ai besoin de savoir qui je suis pour bien vivre ma vie chrétienne, de même, nous avons besoin de savoir qui nous sommes en tant que communauté pour vivre notre vie d'Église. Et je bénis Dieu, je suis vraiment fier de l'EPI, je suis vraiment fier de tous les collaborateurs et collaboratrices, de ce qu'ils sont en train de réaliser et de concocter, parce que c'est cela que nous sentons et dans la direction dans laquelle nous voulons aller. Alors c'est très important de garder l'équilibre entre le personnel et le collectif. La foi a une dimension personnelle, relation personnelle. On ne naît pas chrétien, on le devient en développant une relation personnelle avec Jésus-Christ. Un chrétien, c'est ça, c'est quelqu'un qui est en Christ. On a besoin donc de cette dimension personnelle, mais on a également besoin de vivre la dimension communautaire et collective de la foi. C'est parce que les chrétiens n'ont pas tenu compte de la dimension collective que le christianisme moderne est devenu un christianisme de consommation. Alors les chrétiens viennent, se rassemblent pour consommer du culte, consommer de la louange, consommer des messages, etc., en fonction de leurs intérêts personnels. Et ça, ce n'est pas tout à fait ce que la Bible avait prévu. Un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui a une relation avec Christ, et c'est aussi quelqu'un qui a une relation avec le corps de Christ, comme l'a rappelé tout à l'heure Anita. Notre société individualiste, et même ultra-individualiste, nous a appris à dire « moi, je, me, mon », et nous sommes devenus des moi-mophiles. Pour la traduction, c'est quand je suis tourné vers moi. moi et moi et moi et moi, et que je ne m'occupe que de moi. Mais l'Église, c'est nous, avec un grand N. Le pronom de la première personne du pluriel, il désigne une collectivité. Et ce que j'aime dans l'Église, c'est qu'elle me procure, qu'elle nous procure un profond sentiment d'appartenance. On a tous besoin de cette réalité, ce sentiment d'appartenance. Lorsqu'on regarde le livre des Actes des Apôtres, on assiste à la naissance de la première Église, puis d'autres Églises, et on remarque surtout dans cette première Église, l'Église de Jérusalem, ce petit mot qui revient très souvent. Dans le livre des Actes, par exemple, Actes chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Ça revient sans arrêt. Actes 2, 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Acte 4, verset 24, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Acte 5, 12, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. C'est une des entrées de la ville de Jérusalem. Acte 15, verset 25, nous étions réunis tous ensemble, comme un pléonasme. Tous ensemble, réunis. Et le texte avec ce sentiment d'appartenance, d'identité collective, acte 4, 32, pardon, dit ceci, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'était pas seulement ensemble physiquement, géographiquement, mais ils étaient ensemble de cœur. Et ça nous parle. Alors, je ne vais pas idéaliser le tableau. Il y a eu de la fumée, comme disent les Alsaciens. C'est que Reucht. Il y a eu de la fumée. C'est-à-dire que ça n'a pas duré. Au chapitre 6, déjà la communauté juive et la communauté grecque se chamaillaient et les apôtres, les responsables, ont arrangé la situation, ils ont vraiment bien géré en mettant en œuvre le principe de la délégation. Ça, c'est du leadership, la délégation. Et ils ont mis en place le principe des diacres pour s'occuper des détails matériels. Floyd McClung, un leader chrétien qui a travaillé avec nous à Jeunesse en Mission, avait l'habitude de dire « Tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ appartiennent à tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. » Je vous le répète, « Tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ appartiennent à tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu ne peux pas vivre n'importe comment. Et tu ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que ce que tu es, ce que tu vis, ce que tu fais, aura un rebondissement sur toute la communauté. Nous nous appartenons les uns aux autres. Nous avons un témoignage collectif, une vie collective, communautaire. C'est très important. Alors, quelles sont les bases de notre identité collective ? Alors, quelques pistes, simplement. Premièrement, Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 16, verset 18, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». C'est son Église. On est bien d'accord ? C'est son Église. Même si avec notre cœur, on dit « Ah, c'est mon Église », on comprend bien. Et heureusement qu'on puisse dire « C'est mon Église », parce que ça veut dire qu'il y a un attachement. Mais d'abord, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, notre pasteur, notre bon berger, notre grand berger. Colossiens 1,16 dira, en effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible, l'invisible, les trônes, les souverainetés, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, il est le premier-né, c'est-à-dire l'aîné, d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. L'identité de notre Église locale de l'Épi prend sa source en Jésus-Christ. L'Église est née dans le cœur de Dieu. Il avait à cœur d'être en relation avec des hommes et des femmes que nous sommes. Voilà pourquoi notre vie d'Église, elle est christocentrique, centrée sur Christ. Centré sur Christ. Comme dit Gaëtan Brassard, un pasteur canadien, tout a toujours rapport avec Jésus-Christ. Il est le commencement, il est la fin, il est le premier, c'est lui sur qui nous sommes concentrés. C'est Jésus qui nous a aimés, qui a aimé l'Église et qui s'est sacrifié. Il est mort pour son Église. C'est lui qui s'est sacrifié. Ce ne sont pas les éléments du culte, aussi bonne soit la louange et les messages et tout ce que vous pouvez vivre dans le cadre des cultes, par exemple. Ce ne sont pas les messages qui sont au centre de notre vie d'Église. Ce ne sont pas non plus les pasteurs qui sont au centre de notre vie d'Église. Ce n'est pas une Église pasto-centrique, mais c'est une Église christo-centrique. Chaque célébration est centrée sur Jésus. Éphésiens 2, verset 20, dira qu'il est la pierre angulaire, la pierre d'angle. À l'époque, la pierre d'angle, c'était la pierre centrale. Et c'est sur cette pierre-là que venaient se construire toutes les autres pierres. Toute la construction reposait sur cette pierre centrale. Tout commence donc avec Jésus et tout a toujours rapport avec Jésus. Première chose. Deuxièmement, notre identité collective, elle est définie par la Bible. Nous sommes en tant qu'Église locale ce que la Bible dit que nous sommes. Il y a plusieurs dizaines d'expressions qui sont utilisées pour définir l'Église, définir notre identité collective. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Une des meilleures définitions, celle que j'aime bien, c'est le corps de Christ. Le corps. 1 Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes membres chacun, et vous êtes ses membres chacun pour sa part. Donc, ça rejoint l'idée que nous nous appartenons vraiment les uns aux autres. Et Paul dira, mais la main ne peut pas dire, j'ai pas besoin du corps, ou l'oreille, j'ai pas besoin de la bouche, etc. Il fait toute une allusion, toute une imagerie autour du corps pour montrer que le corps, c'est un ensemble de membres et que tous les membres sont utiles pour faire fonctionner le corps. L'Église, c'est aussi la maison de Dieu, c'est le temple, c'est l'assemblée, c'est l'habitation de Dieu. Et l'Église, c'est aussi une famille. C'est une famille. Et parmi toutes les expressions, il y a, pour donner une perspective d'avenir, l'épouse de Christ. L'Église n'est que de passage. Elle est en route vers le ciel. Et notre avenir, ce n'est pas une construction terrestre. La Bible dit qu'il y a un ciel. Et dans le ciel, un temple qui n'est pas fait de main d'homme. Et un jour, il y aura une grande fête. Il y aura les noces de l'agneau, un grand mariage. Nous serons rassemblés pour toujours avec celui qui nous a aimés le premier, Jésus-Christ, les noces de l'agneau. Ce jour-là, il n'y aura plus de larmes, plus de deuil, plus de souffrance, plus de violence. Et c'est l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, elle est là. C'est une source de motivation, d'inspiration et d'encouragement. Troisièmement, notre identité collective, elle est liée à notre histoire, à nos racines, à notre passé. Les chrétiens de l'Épi sont des chrétiens protestants, évangéliques, pentecôtistes. La première église évangélique est née ici à Strasbourg en 1527, dans le prolongement de la Réforme. Puis ensuite, il y a eu d'autres églises évangéliques. Et puis en 1930, et chaque église... Alors, on ne peut pas faire un cours d'histoire de l'Église ce matin, mais toutes les dénominations sont le reflet de tant de réveils spirituels qui ont été amenés par l'Esprit de Dieu. Et puis en 1930, en tout cas pour la France, il y a eu un mouvement de réveil spirituel qui a amené à nouveau à jour la dimension de la vie de l'Esprit, la vie du Saint-Esprit, les actions du Saint-Esprit avec les dons spirituels, le parler en langue, etc. Et en 1930, c'est une Suissesse qui s'appelle Maria Andrés, qui est venue de la Suisse alémanique, rencontrer des amis ici à Strasbourg. 1930, elle a partagé sa foi, ce qu'elle vivait, la réalité du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, la dimension des dons spirituels. Et ainsi, les amis ici à Strasbourg sont devenus les premiers pentecôtistes. On les appelait les pentecôtistes par rapport à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu et que les chrétiens, à ce moment-là, ont commencé à parler en langue et exercer les dons spirituels. Et c'est comme cela, dans ce groupe de maisons, pas très loin d'ici, ça s'est passé à la Méno. Et la première famille à recevoir le réveil de Pentecôte s'appelait Louis Schneider. Ça ne s'invente pas. Alors, c'est important de se rappeler d'où nous venons. C'est important. On n'est pas une génération spontanée, on ne s'est pas fait tout seul. On a une histoire, on a un passé. Un sociologue disait, un peuple qui oublie son histoire est un peuple qui n'a pas d'avenir. C'est fort, hein ? Mais nous avons un avenir et nous voulons nous souvenir de notre histoire et faire honneur à nos racines. Et puis l'église de l'Épi, elle s'est structurée au fur et à mesure sous l'impulsion de ministères, les ministères de la parole, ce que la Bible appelle les ministères d'ondes dans Éphésiens 4. Des ministères qui se sont succédés et parmi lesquels il y a eu Gilbert Ringenbach. Il y a eu Daniel Hébert. Il y a eu François Forchelet. Et si nous sommes dans ce lieu aujourd'hui, c'est à cause de François Forchelet. J'ai eu l'occasion de le visiter quand il était en plein travaux. Il avait les bottes, coulait des chapes, etc. Et avec beaucoup d'autres chrétiens qui sont ici aujourd'hui et qui ont travaillé pour que ce lieu devienne un lieu de vie, un lieu de culte, un lieu d'évangélisation, un lieu de proclamation, un lieu d'accueil, un lieu où on accompagne chacun, chacune. C'est ça qui était prévu. Et nous voulons nous en souvenir. Puis il y a eu Daniel Brion, et aujourd'hui il y a vos serviteurs. Mais nous sommes aujourd'hui le fruit du travail de nos prédécesseurs. Ils nous ont marqués. Ils ont laissé une empreinte sur notre vie. Et c'est ça qui donne notre identité. Et puis, quatrièmement, notre identité collective, elle se trouve aussi dans le contexte local de l'Épi. Par exemple, Anita nous en a parlé tout à l'heure, c'est une église internationale, à l'image de la ville de Strasbourg, qui est cosmopolite. Actuellement, dans le dernier recensement, nous sommes une soixantaine de nationalités. Et c'est formidable de pouvoir vivre ensemble cette unité sous le même toit. Extraordinaire. Mais la vie de l'Église, ce n'est pas seulement ici, dans ce lieu. Nous passons à peu près 1% de la semaine dans ce lieu. 1%. Et 99%, c'est à l'extérieur. Il y a 168 heures dans la semaine et on passe 1,68. Si on divise par 100, ça fait 1,68. C'est l'église multiculturelle. On mange des acras, de la choucroute, du foutou, du boucané, du dolma, des nems, et j'en passe. Hein ? C'est ça l'Épi. C'est une église intergénérationnelle. Régulièrement, nous présentons des bébés, des enfants. Et notre doyenne, Marie-Geneviève, aura 101 ans dans quelques mois. Ouais ? Intergénérationnel. Vous savez que notre monde est tellement cloisonné, tellement compartimenté, tellement divisé. Et l'Église de l'Épi est la démonstration qu'en Jésus-Christ, nous sommes capables de nous aimer les uns les autres, de nous unir et de montrer que Jésus est la réponse à notre monde d'aujourd'hui. L'Épi a un formidable potentiel, c'est un vivier de ressources. Sa taille offre une multitude de possibilités. Et notre lieu, ici, notre église est un lieu de vie avec une armée de bénévoles qui est affairé à une variété de services et d'activités. C'est en fait un centre de formation continue. On en apprend chaque jour. Et quand vous croyez savoir ou tout savoir, bien, vous apprenez tous les jours. Alors parlons maintenant de vision. Eh bien, notre vision découle de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. On nous pose souvent la question, c'est quoi la vision de l'Épi ? Puis quelquefois, on est même interpellé, des gens qui nous disent, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une vision ? Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas vivre sans vision. Tu ne peux pas vivre Si tu n'as pas de perspective, si tu ne peux pas te projeter, si tu n'as pas d'horizon, tu ne peux pas vivre, ce n'est pas possible. Proverbe 29, 18, faute de vision, le peuple périt. Et lorsqu'on va dans le Nouveau Testament, dans Actes au chapitre 2, verset 17, justement, le jour où le Saint-Esprit a été déversé de manière forte sur la première communauté, Pierre dira, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des rêves. On est dans l'intergénérationnel et on se complète pour apporter une vision. Tu ne peux pas vivre au jour le jour. Tu ne peux pas dire « va comme je te pousse au petit bonheur la chance ». Tu as besoin de perspective, tu as besoin de te projeter. Et ma question ce matin, c'est « est-ce que tu sais où tu vas ?» Pour toi-même, ton couple, ta famille, ton travail, ton entreprise, ton association. Savons-nous, dans notre Église, où nous voulons aller ? Bien, c'est tout l'objet de cette journée et tout l'objet tout à l'heure de ce temps de réflexion, d'échange et de partage. Alors, c'est quoi une vision ? Une vision, c'est un avenir amélioré. Un avenir amélioré. Un futur meilleur. Alors, c'est d'abord une prise de conscience par rapport au présent. Et la vision m'appelle et m'amène à me poser la question, mais où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Et puisque nous sommes dans le collectif, où en sommes-nous aujourd'hui dans notre vie d'église ? Quelles sont nos difficultés ? Quels sont nos points de blocage ? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer ? Qu'est-ce qui nous empêche de nous déployer ? Il s'agit de regarder la réalité en face. Qu'est-ce qui me fait mal aujourd'hui et que je ne supporte pas de laisser dans cet état. Quelle est cette frustration qui te fait dire « il faut que ça change » ? Ça s'appelle la vision. La vision, c'est une douleur qui est tellement insupportable que tu finis par agir. Une vision, c'est quelque chose qui va nous pousser à l'action. La vision ressemble à une boussole qui nous donne le cap à suivre. Elle me montre l'image finale. La vision, c'est en quelque sorte la finalité, c'est un avenir amélioré. Nous pouvons bien sûr perdre de vue la vision, que ce soit sur le plan personnel ou collectif. On peut se laisser accaparer par des problèmes et des situations diverses. Et ma question ce matin, c'est est-ce que tu regardes ta montre ou est-ce que tu regardes la boussole qui t'indique la direction dans laquelle tu dois aller ? C'est la raison pour laquelle il est bon de s'arrêter et de réfléchir. Et c'est vrai, je suis d'accord avec Anita, c'est un moment rare dans la vie d'une église ou la vie d'une association ou d'une entreprise. C'est un moment rare, ce temps qui nous est donné pour échanger, partager et ouvrir nos cœurs les uns aux autres. Il est bon de s'arrêter de réfléchir, de s'interroger par rapport à notre propre vie. Est-ce que je suis en train de devenir la personne que Dieu veut que je sois ? Ou bien est-ce l'idée que nous nous faisions de notre couple, de notre famille, de notre service, de notre association ? La vision, c'est la finalité, mais c'est aussi le processus qui nous amène vers un avenir amélioré. C'est ce qui me transporte vers un avenir amélioré. La vision suscite l'enthousiasme, elle va nourrir ma motivation, elle entretient l'espoir, elle produit de la passion. Et quand tu es mu par une vision, tu ne comptes plus tes heures. Une vision peut être très puissante. La vision peut nous amener à faire des choses extraordinaires. Vous savez, la différence entre quelqu'un d'ordinaire, on est tous pareils de toute façon, il n'y a pas de héros, mais la différence entre quelqu'un qui est ordinaire et quelqu'un qui est extraordinaire se trouve dans ce petit mot « extra ». C'est quelqu'un qui va faire le petit extra, le petit pas de plus, la petite chose en plus. Et c'est comme cela que le Seigneur va pouvoir se servir de nous. La vision peut conduire des gens à se sacrifier avec joie. Lorsque Néhémie s'est tenu devant le peuple à l'époque, en décrivant la situation déplorable dans laquelle se trouvait la ville de Jérusalem, dans la ruine et dans la honte, il fait état un petit peu de la situation dans laquelle ils sont. Au bout d'un moment, tout le peuple se lève et dit « Levons-nous et bâtissons ». Ils se fortifièrent dans ces bonnes résolutions. Ces jours-ci, nous commémorons les 80 ans de l'évacuation des Alsaciens. Des milliers d'Alsaciens ont dû fuir l'Alsace, ont été évacués dans le sud-ouest du pays, contraints de quitter leur maison avec seulement 30 kilos de bagages en 1939. C'est une période douloureuse. Et la France était occupée par les Allemands. Et au cœur de toute cette détresse de l'occupation allemande, un homme s'est levé. Et il a lancé un appel. On l'appelle l'appel du 18 juin, c'était le général de Gaulle. Et il a appelé tous les combattants à le rejoindre. Et son objectif, c'était de libérer la France. Des milliers de Français sont allés le rejoindre et leur vision, c'était de libérer la France. Moi, j'ai un beau-père qui était militaire et qui a rejoint une unité qui s'appelait la première DFL, Division Française Libre. Et il me racontait les combats, me racontait dans tous les détails tout ce qu'ils avaient vécu. Et leur objectif, leur vision, c'était de libérer la France. Notre vision, elle concerne la libération de milliers de personnes autour de nous, des hommes et des femmes qui vivent dans la souffrance, qui vivent dans le péché, qui vivent comme des esclaves. Nous voulons aller à leur rencontre avec le message de l'Évangile pour qu'ils puissent connaître la liberté. Ils se battaient pour un avenir meilleur. Alors la vision de l'épi, je termine par cela, sa raison d'être, elle peut se résumer en trois points. Premièrement, proclamer. On a entendu le pasteur Raymond Pierre tout à l'heure sur la vidéo, proclamer. La mission de l'Église est d'annoncer le message de la bonne nouvelle de Jésus. Et nous croyons que c'est encore l'Évangile qui est la puissance, la faculté de libérer et d'apporter la solution à tous les problèmes fondamentaux de l'être humain. C'est l'Évangile qui correspond parfaitement aux besoins. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de sauver les pécheurs que nous sommes, de transformer des vies, de restaurer des cœurs brisés. Ma conviction et notre conviction, c'est que Jésus peut rendre chaque vie humaine belle. L'épi est pleinement elle-même lorsqu'elle répond aux instructions de Jésus. Marc 16, 15, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. C'est le message de la grâce que nous prêchons, sans légalisme, sans complaisance avec le péché. On appelle un chat un chat. Dans quelques semaines, nous allons traiter le sujet, j'ai oublié le nom, tu en as parlé tout à l'heure, c'est le harcèlement. Voilà, le harcèlement. Et nous sommes ces jours-ci avec l'équipe pastorale, avec les anciens aussi, concernés par le phénomène des violences. L'Église a un message, une action aussi à l'égard de ces choses. Nous sommes concernés. C'est le message de la grâce que nous prêchons. Nous n'avons pas peur d'aborder des sujets difficiles, avec équilibre, dans un langage accessible, en étant vrai et en étant respectueux de toute personne. Nous croyons que les gens ont besoin de Jésus. Deuxièmement, accueillir. Notre mission est d'accueillir toute personne en recherche spirituelle, de prendre en compte sa démarche, ses besoins physiques, émotionnels, psychologiques, spirituels. Et en tant qu'Église internationale, je vais vous dire quelque chose ce matin, nous nous élevons fermement contre toute forme de racisme, de haine, de discrimination, de rejet de l'autre, de sexisme. Nous accordons autant d'importance et de valeur aux femmes que nous en accordons aux hommes. Nous croyons que l'Église doit être à l'image de Jésus. Comme lui, nous sommes là pour aimer, pour servir notre prochain. C'est un grand mot quand on parle d'amour, aimer. Je crois que prochainement, notre oratrice Yolande Schwab nous prépare un message sur l'amour. Parce que je crois que les uns les autres, nous avons parfois une mauvaise compréhension de ce que c'est que aimer. Aimer, dans la Bible, ce n'est jamais une émotion. C'est toujours une action. Toujours une action. Accueillir, c'est aimer. Je crois que l'Église est appelée à accueillir. Romains 15, 7, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Alors accueillir, c'est parfois se laisser bousculer, se laisser déranger. Accueillir, c'est aussi être à l'écoute, c'est apprendre. Accueillir, c'est donner sa chance à celui qui est en situation d'échec. Accueillir, c'est aussi être ensemble, la famille de la deuxième chance pour quelqu'un qui n'a jamais connu ou qui n'a pas connu, qui n'a pas eu cette chance d'avoir une vie de famille. Accueillir, c'est manifester la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce ? La grâce, c'est l'initiative. Lorsque tu fais le premier pas en direction de quelqu'un, tu manifestes la grâce. C'est concret, c'est pratique. Quand la Bible dit « aimez-vous les uns les autres », ce n'est pas de se regarder dans le blanc des yeux. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Mais c'est être en action, c'est agir. Et puis troisièmement, accompagner. L'épouse est pleinement elle-même et elle est à sa place lorsqu'elle accomplit le grand commandement « Faites de toutes les nations des disciples ». C'est cela que le Seigneur attend de nous. Et notre mission, notre vision est d'accompagner petits et grands vers la maturité spirituelle. Notre mission est de former, d'enseigner, d'équiper chaque chrétien. Et le cœur de l'épi, c'est de valoriser chaque individu, de l'entourer, de le soutenir et de l'encourager à servir. Et par la grâce de Dieu, j'ose le dire, par la grâce de Dieu, nous sommes une bonne église. Par la grâce de Dieu, nous sommes une bonne église, mais nous pouvons devenir meilleurs. Et c'est tout l'objet de cette journée, devenir meilleurs. Non pas forcément meilleurs dans notre organisation, non pas forcément meilleurs dans la louange ou meilleurs dans la prédication, mais, écoutez-moi bien, meilleurs dans nos relations. Parce que l'église, ce n'est pas des réunions, mais des relations. Et lorsqu'à la fin de votre vie, vous ferez le bilan de votre vie, ce qui va nous rester les uns aux autres, les uns et les autres, ce n'est pas tant ce que nous aurons dit, ce que nous aurons fait, etc. Ce qui va nous rester à la fin de notre vie, ce sont toutes les relations que nous aurons cultivées dans notre parcours. Et ça, c'est précieux. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour l'épi, merci pour l'Église, merci d'avoir donné ta vie et de t'être sacrifié pour nous. Nous sommes tellement reconnaissants de vivre ce que nous vivons. Mais Seigneur, nous sentons notre fragilité, nous sentons nos faiblesses, nous ne nous sentons pas du tout à la hauteur. Viens à notre secours aujourd'hui. Viens nous aider à réfléchir comme toi tu réfléchis, à penser comme toi tu penses. Et à partager nos cœurs les uns avec les autres. Viens, Seigneur, s'il te plaît, nous rendre meilleurs. Ô Seigneur, les choses ne sont pas encore comme tu les voudrais. Un monde en souffrance autour de nous, nous voudrions tellement être au travers de toi une réponse. pour les besoins de notre entourage. Alors, Seigneur, viens nous aider aujourd'hui et que ton nom soit béni, que ton Église devienne de plus en plus belle et qu'elle te représente de mieux en mieux. Tu le mérites, Seigneur. Merci. Merci pour ton assistance aujourd'hui. Et tout le peuple dit... Amen. Que Dieu vous bénisse.